Au mois de janvier, nous avions consacré une première séance au sacrement de l'Eucharistie. Et j'avais insisté sur l'importance que revêtait ce sacrement, qui est de tous le plus insigne. Je ne reviens pas dessus parce que j'y ai insisté lourdement depuis le début de l'année sur la suréminence de ce sacrement par rapport aux autres. Je vous avais dit l'importance également de quant à la foi, en fait, voilà, que notre relation à l'Eucharistie, au dire même des pères de l'Église, au dire en fait de toute la tradition ecclésiale et puis aussi du catéchisme de l'Église catholique, était un bon moyen de savoir où on en était quant à la foi prise dans son ensemble. Quel est mon attachement au sacrement de l'Eucharistie, quel est ce qu'il me manque vraiment lorsque je ne peux pas y accéder, est-ce que j'ai également cette attirance, cet attrait et cette révérence à l'égard du Saint-Sacrement, même en dehors de la célébration de la messe. Voilà, tout cela permet de savoir un peu, est une bonne jauge, un bon étalon pour savoir où on en est au plan de notre foi et de notre attachement en fait à Dieu, voilà, qui a choisi parmi tous les sacrements celui-ci comme permettant sa présence substantielle. C'est pourquoi j'ai insisté, en parlant de présence substantielle, j'ai la dernière fois parlé assez abondamment de la présence réelle de Jésus sous les accidents, souvenez-vous des termes techniques employés, les accidents du pain et du vin, les déterminations extérieures, la couleur, la forme, le goût, qui à la fois manifestaient mais aussi voilaient pour partie, et comment, ce qui se love en eux, c'est-à-dire la substance du corps et du sang de Jésus. Voilà, je ne reviens pas sur ce point important que j'ai amplement détaillé, sur la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, que j'ai enraciné évidemment dans les données de l'Écriture sainte et singulièrement de l'Évangile, en vous parlant des récits de l'institution qui sont contenus dans les trois évangiles synoptiques et dans une épître de Saint-Paul, et en vous parlant également du discours du pain de vie, dans le quatrième évangile, celui de saint Jean, où Jésus apporte encore un éclairage supplémentaire, ou plutôt par anticipation, par rapport à ce qui se fait le soir du jeudi saint et à ce qui est relaté par les récits de l'institution. J'ai ensuite traité, toujours à propos de la présence réelle, des développements théologiques ultérieurs, voilà, de ce que l'Église, de la manière dont l'Église avait déployé ses trésors de la révélation contenue dans l'Écriture sainte. Il me revient comme je l'annonçais la dernière fois, ce soir, de traiter du caractère sacrificiel de la messe. Ça, c'était encore un autre continent. Voilà, rassurez-vous, c'est le chauffage qui fait son travail, donc c'est plutôt bon signe. Alors, il faudrait qu'il le... Ouais. Voilà. Alors, dans le cadre du cycle de l'année dernière, pour ceux qui avaient le privilège d'en être, nous avons traité, souvenez-vous, des fins dernières, du salut, et j'ai évoqué la façon dont Jésus opère notre salut. Et j'ai notamment évoqué les deux fonctions essentielles qu'il a remplies, à savoir la fonction illuminative ou la fonction prophétique. Jésus est la lumière du monde, c'est ainsi qu'il se qualifie. Et il vient nous dévoiler, certes, la noirceur de notre péché, mais ce n'est pas un professeur de morale, ce n'est pas un hussard noir, donc il n'est pas d'abord là pour nous faire frémir et nous faire peur, il est d'abord là pour faire éblouir, resplendir la lumière de la vérité qu'il est. Voilà. Et cette fonction illuminative ou prophétique passe par un certain nombre de discours, un certain nombre de paroles que prononce le Seigneur Jésus, mais aussi, et j'allais dire essentiellement, par son propre comportement, par ses actes. Le Seigneur Jésus n'a pas pour habitude, tout verbe qu'il est, de se payer de mots, si vous permettez cette expression assez impropre pour lui, mais il adjoint l'agir, et quel agir? Voilà. En gros, il dit sans cesse « regardez-moi », ou plutôt, il nous fait comprendre qu'il faut le regarder lui, la façon dont il est, la façon dont il agit, pour saisir quelle est la vérité, pour comprendre qui est Dieu. On dit qu'il est la porte d'entrée vers le Père et les deux autres personnes de la Trinité. « Je suis la porte », dit-il, « je suis la voie », voilà. Nul n'entre sinon par moi, c'est ce qu'il dit à plusieurs reprises. Voilà, donc cette fonction illuminative, cette fonction prophétique, qui est là pour, en quelque sorte, préparer le terrain pour l'autre tâche que le Seigneur s'est assignée, ou que le Père lui a assignée, c'est la tâche sacerdotale. Et cette tâche sacerdotale consiste, je vous le rappelle, à offrir au Père le culte parfait qui lui est dû. Un culte qui soit à la hauteur de sa noblesse. J'avais, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est peut-être un peu trop précis, mais j'avais insisté, entre autres, sur le fait que ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, c'est quelque chose qui nous parle, parce que ça vient de chez nous, l'école française de spiritualité, qui est cette école fin XVIe siècle, XVIIe siècle, dans le sillage du Concile de Trente, mais qui excède les simples considérations dogmatiques du Concile, cette école qui charrie les noms très, très, très aimables et très beaux de Saint François de Sales, du cardinal Pierre de Bérulle, de Saint Vincent de Paul, de Saint Jean Eudes et de Monsieur Ollier, j'en passe encore, et des meilleurs, peut-être pas, mais enfin, voilà, et je n'oublie pas le pendant féminin, je voudrais bien accorder au féminin, donc tout ce que je viens de vous dire au masculin, parce qu'il se trouve, et vous le savez sans doute, que chacun de ces bons hommes avait sa chacune, si je puis dire, voilà, ce qui est assez récurrent dans l'histoire de l'humanité. Des sommets de sainteté, donc voilà, et unissant du reste à leur conviction et à leur enseignement tout à fait mémorable, là aussi un agir remarquable, parce que c'est une grande époque de charité. Les œuvres fleurissent partout sur la pauvre terre de France où on s'entretuait déjà ou encore à l'époque. Voilà. Et cette école française de spiritualité, après ce long prolégomène qui vise à la mettre au pinacle, cette école française, je vous avais dit, avait été très sensible à ce qu'ils appelaient le religieux de Dieu. Le fait que de toute éternité, ou plutôt, pardon, depuis que Dieu avait créé, eh bien, aucune créature, et ce, même dans l'Éden, même du temps où Adam et Ève se tenaient bien tranquilles, sous la conduite de leur aimante, de leur père, aucune créature, aucun être humain n'était à même de rendre à Dieu le culte convenable. Voyez ? Et donc, ce culte-là a été rendu, nous le savons bien, par son Fils incarné. Et il voyait là l'un des motifs de l'incarnation. Bien sûr, le motif de l'incarnation qu'on connaît tous, et ça nous ravit parce que c'est tout à fait utile pour nous, c'est la rédemption, c'est le salut, bien sûr. Mais Jésus est également venu pour manifester la beauté, la bonté, l'amour infini du Père. Et c'est encore un autre motif de l'incarnation, vous voyez, ils sont conjoints tous ces motifs. Mais. Et il y a encore un autre motif qui est le fait que Jésus est venu rendre à son Père le culte adéquat. Voilà. Pour la première fois, dans toute l'histoire des créatures, enfin, le culte pouvait être rendu comme il convenait. Alors, je reviens à notre histoire de fonction sacerdotale et de culte parfait, en précisant que ce culte, eh bien, il est tout entier focalisé par un sacrifice. Sacrifice dont est venu s'acquitter le Christ. Alors, comme je crois l'avoir dit l'an dernier, mais j'imagine que vous n'aviez pas besoin de ces précisions, enfin je les réitère tout de même au cas où, parce qu'il se fait tard, le mot latin « sacrificium », qu'on traduit par « sacrifice » tout bêtement, il vient de l'adjonction de deux termes latins, le substantif « sacrum », qui signifie « acte sacré », et du verbe « facere », pas besoin d'être un grand latiniste, je ne le suis pas du reste, pour savoir que « facere » veut dire « faire ». Autrement dit, le sacrifice consiste à accomplir un acte sacré, c'est-à-dire à rendre sacré une réalité qui jusqu'alors était profane, qui était voilà, de l'ordre du quotidien, de la création commune, disons. Hein, on rend sacré une réalité profane. Voilà l'enjeu du sacrifice. Et pour ce faire, on va soustraire cette réalité profane à l'usage profane, à l'usage que l'être humain en fait, voyez, pour quoi ? Eh bien, pour le dédier, ou plutôt la dédier, cette réalité, à la divinité, à Dieu. Ceci afin de quoi ? Ceci afin de... Parce que figurez-vous que, enfin vous le savez bien, Dieu n'a pas grand besoin des réalités, même les plus éminentes, qui se comptent parmi les créatures. D'ailleurs, il le fait savoir assez régulièrement dans l'Écriture, particulièrement dans l'Ancien Testament, à ceux qui s'enorgueilliraient d'offrir à Dieu un taureau qui serait plus gros que le voisin, ou je ne sais quoi. Il dit par la bouche du psalmiste, t'es bien gentil, quoi, tes holocaustes, est-ce que tu crois que c'est ce qui va satisfaire, est-ce que tu crois que j'en ai besoin ? C'est moi qui les ai créés. Évidemment, je ne reprends pas le psaume tel quel, mais en substance, c'est ça. Tu vois, mon ami, voilà. Ton sacrifice est très beau. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai demandé de l'offrir. Donc, tu fais bien d'y accéder. Mais sache que aucune créature, je n'ai besoin d'aucune créature. Je suis Dieu. Je suis au-delà de tout. Et c'est moi qui, de rien, ai tout fait. Vous voyez ? Toujours, je crois que c'est important de se remettre ça en tête tout le temps, en fait, dans les disputes qu'on peut avoir sur la manière de rendre un culte à Dieu, etc. Voilà. Donc, ce qui est précieux, ce qui est important dans l'ordre de l'offrande d'un sacrifice, c'est que l'on y manifeste, en réalité, le fait que tout revient à Dieu. C'est ça qui est important. C'est pas tant la réalité en soi, qui n'est qu'une créature, si belle soit-elle. C'est le fait qu'ainsi faisant, eh bien, je rends à Dieu ce qui est à Dieu. Tout. Ou au moins une partie du tout. Voyez. Et donc, si le sacrifice consiste, comme je viens de le dire, à offrir à Dieu une réalité qui est issue de la création, et une réalité, c'est sûr, qui, quand même, on ne va pas offrir n'importe quoi à Dieu. Enfin, on essaie d'offrir quand même quelque chose. Quand on offre un cadeau à quelqu'un, voilà, on essaie de faire un petit effort, tout de même. Donc, on essaie d'offrir à Dieu quelque chose qui est précieux, au moins, à nos yeux. Voilà. Pas besoin que ce soit quelque chose de précieux objectivement en soi, mais subjectivement, si c'est quelque chose qui nous coûte, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on offre à Dieu, vous voyez que le sacrifice en est d'autant plus beau. Voilà. Et puisque l'enjeu du sacrifice, c'est donc d'offrir à Dieu quelque chose, de le retirer d'usage profane, alors on comprend que le sacrifice le plus parfait soit ce qu'on appelle l'holocauste. Alors il faut retirer... Enfin, s'il est possible, après les événements dramatiques que l'on sait d'il y a quelques décennies, il faut retirer... l'Holocauste, ça n'est pas seulement le sort horrible qu'ont connu les Juifs à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale et environnant. C'est un terme qui, vous le savez sans doute, vient du judaïsme, du reste, directement issu de l'Ancien Testament, et qui désigne quoi ? Qui désigne un sacrifice dans lequel l'offrande est brûlée, consumée totalement. On n'en garde rien. C'est le sacrifice le plus noble. Il y a trois catégories de sacrifices qu'on offre en Israël, je vous fais grâce des détails, mais voilà, on comprend bien que, puisque l'enjeu du sacrifice, c'est extraire quelque chose du domaine profane, le consacrer, le dédier à Dieu, lorsqu'on le brûle, et qu'ainsi on se garde par avance de pouvoir le faire retourner dans la sphère profane, on conçoit que ce soit le plus beau des sacrifices. Voilà. L'Holocauste, par le feu, soustrait totalement de l'usage courant, de l'usage profane, cette réalité. C'est donc le sacrifice le plus beau, le sacrifice le plus parfait. Or, on peut dire que la vie de Jésus et la vie tout entière de Jésus a été un véritable Holocauste. C'est tout à fait frappant. Il ne garde rien pour lui, mais en permanence, il offre toute sa personne, toutes ses pensées, toutes ses paroles, toutes ses actions, ses jours et ses nuits, puisqu'après avoir passé sa journée à faire du bien, comme on nous le dit, cet homme passait à faire du bien, il passe les nuits à quoi ? Eh bien, à des colloques avec le Père éternel, avec son Père. Donc il ne garde absolument rien pour lui, et cet holocauste s'est inauguré, figurez-vous, dès le moment de son incarnation. Dès le moment de son incarnation, Saint Paul nous le dit, c'est pour ça que je l'ai tenu à lire d'ailleurs en préambule, ou plutôt en prière d'ouverture, ce passage si beau de l'Épître aux Philippiens. Saint Paul nous dit que il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais, et certaines autres traductions nous disent de façon encore plus éloquente, il ne fut pas rapace, ou il ne garda pas pour lui-même, voyez, mais il s'est anéanti, c'est la fameuse kénose, du verbe grec ekenosein, prenant la condition d'esclave. Voilà. Donc il y a déjà une déprise de soi, une offrande totale, l'anéantissement, la kénose, l'holocauste, auquel consent le Fils de Dieu, épousant la nature humaine, dès sa conception dans le sein de Marie. Et ça commençait sous des auspices assez clairs. Et évidemment, l'offrande culmine, l'offrande au Père, son holocauste, culmine évidemment dans cet événement que nous allons célébrer dans quelques temps avec ardeur et avec émotion, j'imagine. Ce sera donc le moment où le Christ remet en croix son âme au Père. Alors, ça va jusqu'à maintenant ? C'est pas, voilà. Contrairement à ce que certains courants de spiritualité ont pu laisser croire, ce n'est pas le degré des souffrances éprouvées par le Christ en son humanité qui a conféré à son sacrifice une dignité suréminente. Je répète, ce n'est pas le degré de souffrance éprouvée par le Christ, et Dieu sait qu'elles furent intenses, ces souffrances, qui a conféré à l'offrande du Christ sa suréminente dignité. Ce sont trois autres caractéristiques qui donnent donc une valeur immense, une valeur incomparable à cette offrande, à ce sacrifice, à cet holocauste auquel le Christ a consenti. La première chose, c'est la dignité parfaite de celui qui s'offrait ainsi en holocauste. Évidemment, une humanité sainte, animée par le Verbe de Dieu, rien moins, voilà, c'est la plus belle des offrandes. Voilà. Toute autre offrande est nécessairement grevée de telle ou telle imperfection, de telle ou telle... Voilà, lorsque nous-mêmes voulons nous offrir au Père, eh bien, nous devons d'abord, c'est ce qui se passe à la messe, j'y reviendrai sans doute, mais nous devons d'abord confesser que nous ne sommes pas parfaits. Et un Seigneur agrée l'offrande que je m'apprête à faire, néanmoins je sais bien que cette offrande-là, elle est limitée, elle est pécheresse. Donc elle n'est pas parfaite. Voilà. Donc première chose, c'est la dignité de ce qui est offert, l'humanité très sainte de Jésus. Le deuxième motif pour lequel cet holocauste, ce sacrifice est incomparable, c'est l'obéissance suprême qui motive cette offrande de soi. Jésus ne cesse de faire allusion à sa soumission à la volonté du Père. Je suis descendu non pas pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est en Jean chapitre 6, au discours du pain de vie que nous avons commenté la dernière fois. Non pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Et il est tout à fait notable que même au moment les plus éprouvants, le Christ maintient mordicus cette obéissance filiale à la volonté du Père. Au jardin des Oliviers, ça vous crève le cœur, évidemment, puisque par deux fois, il supplie le Père de bien vouloir éloigner ce calice de sa mort qu'il sait devoir advenir le lendemain. Et il se reprend, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et puis, moment encore plus tragique, encore plus frappant, lorsqu'il est en croix, sa dernière parole, si l'on s'en tient à l'évangile de Saint Jean, si je ne m'abuse, c'est celle-ci, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Autrement dit, j'ai rempli ma mission, celle qui m'était imputée par le Père. Voilà, jusqu'au bout, et jusqu'en cet ultime moment, « Père, je me soumets à ta volonté. » D'ailleurs, il n'appelle pas « Père », vous vous souvenez ? Il l'appelle « Mon Dieu ». À Gethsémani, il l'appelle « Mon Père », mais sur la croix, la déréliction est telle, probablement, qu'il emploie le terme « mon Dieu ». Alors on dira, les commentateurs ont dit « oui, mais c'est pour mieux se conformer à des paroles prophétiques de l'Ancien Testament ». Oui, peut-être. Je me méfie de... Enfin, très probablement, sachant que en fait, il faut regarder les choses en sens inverse, c'est-à-dire que les prophéties de l'Ancien Testament sont, comme leur nom l'indique, des prophéties, c'est-à-dire saisissent par avance ce qui sera réalisé en plénitude dans le Christ. Donc c'est comme un écho par anticipation de ce qui émane de la bouche du Christ sur la croix, en fait. C'est pas Jésus qui est là avec le bouquin sous les yeux, en essayant de se conformer dans le moindre détail. Alors attends, est-ce que j'ai bien dit ça? Parce qu'on m'avait dit, oui, d'accord, c'est fait. Non, je crois que sur la croix, il y avait d'autres choses. Enfin, c'était pas tout à fait sa préoccupation. Mais surtout, il est totalement mon Dieu. Ça montre bien qu'il y a une espèce de distance qui s'est établie dans son âme humaine, hein, comprenons-nous bien. Il n'a jamais cessé un instant d'être Dieu. C'est donc comment, d'abord, parce que c'est impossible que Dieu se scinde, ou alors il n'est pas Dieu, quoi. Et puis d'autre part, il en allait de notre salut quand même. Enfin, il a fallu que Jésus, mais ça j'y ai insisté à plusieurs reprises, que son humanité soit toujours conjointe à sa divinité. Voilà. De sorte que chacun de ses actes, chacune de ses pensées, chacune de ses paroles est un poids infini et une résonance éternelle par-delà le temps. Ce qui lui permet de sauver par-delà les considérations spatio-temporelles. Ça va ou je commence à vous perdre ou non, pas encore? D'accord. Je me fais fort de ne pas vous perdre. Alors, oui, voilà. Donc, et alors, cette obéissance est d'autant plus remarquable que, jusqu'au bout, elle est parfaitement libre. Ça n'est pas une obéissance contrainte. Vous voyez, Mais je vous ferai remarquer que ça saute pas toujours aux yeux, en fait. Quand on colle à l'Évangile, il y a quand même des moments où on se dit, mais est-ce que Jésus était réellement libre? À partir du moment où, au Jardin des Oliviers, on lui met la main au collet, et où il passe de Karim en Silla, enfin, pour mieux dire, des grands prêtres au procurateur et retour avec un petit passage par l'autre, là, Hérode, et qu'ensuite les soldats font ce qu'ils veulent de lui et qu'il est conduit enfin jusqu'au Golgotha, on se dit, ben, en fait, à partir du moment où il est pris en charge par les soldats du Temple, dans la nuit du jeudi au vendredi, c'en est fini de sa liberté, quand même. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il faut lire tout l'Évangile et qu'il faut notamment lire ce que Jésus a dit quelques chapitres avant, c'est-à-dire quelques mois avant, sans doute. « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Jean, chapitre 10. « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Ça, c'est quand même très frappant, et ça rehausse encore la noblesse de ce qui s'accomplit. À tout moment, d'ailleurs, il le dit, vous savez bien, c'est très frappant dans les récits de la Passion que nous allons méditer à frais nouveaux pendant la Semaine Sainte. Ces quatre récits, c'est quand même dantesque ce qui s'y passe, quoi. Mais on a envie de... Si c'était une série dont on connaît pas l'issue, ou un film, je sais pas, moi je suis un spécialiste pour m'énerver devant les films quand ça tourne mal pour les justes. Bon, alors, bah oui, je sais pas, non mais je me prends à... Bon, arrêtons là. Mais c'est vrai, on a envie d'aller cogner tous ces abrutis, enfin, faut quand même être clair. Parce qu'on oublie un peu vite que les abrutis, on en fait partie. Le motif pour lequel Jésus s'est offert, c'est notamment mes péchés, quoi. Donc, bon. Mais, toujours est-il que du coup, je suis en train de me perdre, comme tout le temps. On a l'impression qu'il a besoin d'aide, et Jésus de dire à Saint-Pierre de remettre, qui n'est encore que Simon-Pierre, hein, parce que c'est pas encore fait pour lui, de rengainer l'épée au fourreau après qu'il a arraché l'oreille de Malchus, quoi. Et de dire, mais qui sortira le glaive périra par le glaive. Ne crois-tu pas qu'en faisant appel à mon père, il l'enverrait sur le champ 12 légions d'anges? J'y avais déjà fait allusion plusieurs fois parce qu'on avait fait le compte. Une légion, c'est, je crois, 7000, 8000 hommes. Voilà, multiplié par 12. Puis quand c'est des anges, ça pinaille pas, quoi. Du coup, c'est pas les grognards. Voilà. Donc, et ensuite, devant le procurateur ou gouverneur, selon qu'on qualifie Pilate, quand il lui dit, mais tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné par mon Père. Tu te prends pour qui, en fait, petit procurateur crotté ? Enfin, c'est pas ce que dit Jésus, il aime trop ses créatures pour parler comme ça. Mais moi, c'est ce que je me dis à chaque fois que j'entends la passion, que je la proclame. J'ai envie de m'arrêter et de régler son compte à Pilate, mais ça sert à rien, en fait. Jésus l'a fait, et d'une autre manière, et d'une efficacité autre. Bon. Mais vous voyez, donc, il affirme sans cesse, dans cet abaissement continu qu'est la passion, d'ailleurs patior, qui veut dire subir, pas seulement souffrir, mais subir. En réalité, c'est très paradoxal, parce qu'à mesure que l'étau se resserre, mais ça commence au début de sa vie publique, en réalité, Jésus manifeste de plus en plus sa liberté. C'est quand même... voilà. Et voyez, donc, le fait que ce soit l'obéissance plus que le caractère sanglant, voyez, que la souffrance du Christ qui a donné sa valeur à son holocauste, apparaît dans les paroles, enfin ces paroles que je cite de la lettre aux Hébreux. L'auteur met sur la bouche de Jésus ces mots-là, que vous connaissez, qui sont une reprise des prophéties de l'Ancienne Alliance. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste pour les péchés, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. » C'est aux Hébreux, je crois que c'est au chapitre 10e. Vous voyez, on voit bien que... Alors, ce que révoque ici Jésus, par la plume de l'auteur des Hébreux, c'est les holocaustes, les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Mais, donc il met un terme, en fait, à tous ces sacrifices vétérotestamentaires. Mais pas seulement. Il manifeste aussi, en filigrane, je vous le concède, que ça n'est pas tant... encore une fois, la violence du sacrifice, ça n'est pas tant le sang qui gicle qui importe. Ce qui importe, c'est qu'il soit là, qu'il soit consenti, ces sacrifices, ou ce sacrifice, pour accomplir ta volonté. Toujours la même chose. Une espèce d'obsession, je parlerai d'obsession s'il ne s'agissait pas de Jésus, de se conformer à la volonté du Père. Et par une telle obéissance, Jésus permet dans son sacrifice, plutôt il permet que son sacrifice répare quoi donc ? Eh bien, le nœud du péché. Le nœud du péché, quand vous reprenez Genèse 3, cette fameuse scène du péché originel, de qu'est-ce qui advient ? Eh bien, un manque de confiance en Dieu, bien sûr. Sous l'influence de l'autre, là, qui est en train de faire désespérer Adam et Ève de la bonté infinie de leur Père et Créateur. Mais à un moment, c'est une désobéissance. Adam et Ève sortent de l'obédience du Père, des plans de Dieu. Voilà, donc, ce que vient faire Jésus, dans son sacrifice dont je viens de souligner abondamment qu'il est remarquable par l'obéissance qu'il anime, eh bien Jésus vient faire profiter l'humanité de cette remise dans l'orbite de la volonté de Dieu. Par sa propre obéissance, il prend le contre-pied de la désobéissance qui caractérise chacun de nos péchés, en somme. Et ça, c'est pas évidemment de mon propre fond et le fruit de ma méditation, parce que ça irait pas très loin, mais c'est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, où saint Paul nous dit ceci, que vous connaissez là encore, mais il est toujours bon de réentendre ces phrases si belles et cette révélation que Dieu nous fait, en fait. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a passé à tous les hommes. De même, l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet par la désobéissance d'un seul, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi, en parallèle ou en symétrie, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste ? On sait bien que la justification, dans la bouche et sous la plume de saint Paul, qui est pétrie de culture hébraïque, la justification, ça va bien plus loin que simplement le fait d'être dans les clous ou... ou vous voyez, de pouvoir répondre droit dans ses bottes devant le juge. J'ai honoré la justice. Non, être juste, constitué juste, ça veut dire être déifié. C'est-à-dire être sauvé par Dieu, être lavé de toute scorie, et voilà. Et ça passe par quoi ? Comment est-ce que l'on est constitué juste ? Ou quelle est la caractéristique du juste ? Joseph le juste, celui qui... Enfin, c'est ainsi qu'on s'exprime que l'évangéliste saint Matthieu le qualifie au début de son évangile, dans l'évangile de l'enfance, le premier chapitre, les deux premiers chapitres, Joseph, qui était un homme juste, résolu de la répudier, mais en secret. Vous savez, il voit s'arrondir le ventre de sa chair étendre, voilà. Et, sachant trop que... Enfin, plutôt, on ne sait pas exactement les motifs qui l'y ont poussé, mais voilà, soit qu'il se soit estimé indigne, soit que, ça c'est la thèse la plus pessimiste, il est douté, quoi, de sa chère Marie, ça paraît un peu improbable, mais, eh bien, il décide de la répudier, mais en secret, parce qu'il était un homme juste. Il ne voulait pas la soumettre à la vindicte populaire et l'exposer à être lapidé, parce que c'est comme ça que se soldait la découverte d'un adultère. Et juste, c'est, tous les commentateurs le disent, celui qui est à l'écoute de la parole de Dieu. Celui qui, quoique éprouvant le doute, et parfois sévère, quoique connaissant des épreuves, et comment, pour Joseph c'est très net, c'est Saint Joseph, eh bien, il est toujours prêt à écouter la parole de Dieu. Et il a un grand devancier, alors, il en a plein, vous me direz, mais il y en a un qui est tout à fait notoire, et dont parle Saint Paul, celui qui, souvenez-vous, espérant contre toute espérance, fut tenu pour juste. Ça lui fut compté pour justice. Je parle évidemment d'Abraham, qui a accepté d'aller sur la demande de Dieu. C'était dans la forme ordinaire, une des lectures de dimanche dernier, avant-hier. Très, très émouvante scène, où il va monter, offrir en sacrifice le fruit même de la promesse. Celui qu'il a eu tant de peine à avoir, moyennant l'intervention de Dieu. Voilà que, tac, il faut qu'il l'exécute de ses propres mains, en plus. Et on connaît la suite, ou la chute, et tant mieux, voilà, l'ange qui vient le retenir son bras. Mais, et parce que tu m'as écouté, dit Dieu, parce que tu m'as obéi, je rendrai ta descendance, et il réitère la promesse qu'il lui avait faite préalablement, aussi nombreuses que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer, etc. Voilà. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises que Dieu est tout à fait oriental lorsqu'il parle dans l'Écriture. Voilà. Et donc, il y a cette obéissance du Christ qui nous permet, c'est-à-dire qui a des effets à son propre profit. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, l'humanité de Jésus a conquis un titre royal supplémentaire à ce titre royal du Verbe qui était en elle, du Fils de Dieu, éternel. C'est déjà pas mal, c'est même énorme. Mais par surcroît, il nous entraîne dans son sillage et par son obéissance, il répare les méfaits de notre désobéissance. Il nous remet dans l'axe du Père. Voilà. Et ça, c'était aux Romains, donc Romains 5. Il y a quelque chose de similaire aux Hébreux. Hébreux 5, tiens donc, ils se sont passé le mot. Hébreux 5 dit la même chose, mais d'une manière plus dramatique encore. D'une manière plus, j'allais dire, plus vivante, plus incarnée. Parce que la désobéissance d'un seul a entraîné le malaise de la multitude, enfin les méfaits. Et l'obéissance d'un seul a constitué juste la multitude. C'est magnifique, c'est très beau, mais c'est encore un peu abstrait ou un peu théorique. Eh bien, aux Hébreux, on voit quelque chose en chair et en os, et comment ? C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications, rien n'est laissé au hasard, vous le savez, dans l'Écriture, non pas parce que le papier coûte trop cher à l'époque, mais le Saint-Esprit sait ce qu'il dit, et quand les termes sont redondants, c'est pas du tout hasardeux, encore une fois. C'est donc pour essayer de mieux rendre compte de ces tribulations qu'a rencontré le Fils de Dieu, quoi, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Présenté donc avec violentes clameurs, des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. « Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez, tout fils qu'il était, poursuit l'épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Ah, mais c'est stupéfiant quand même. Après avoir été rendu parfait, sous-entendu par cette obéissance indéfectible que Jésus a, non pas seulement jour après jour, mais instant après instant, accepté de vivre, il est devenu, et je reprends les mots là des Hébreux, pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel. Vous voyez, c'est la même chose qui nous est dite, mais encore une fois, de manière plus dramatique, plus on sent de manière plus prégnante ce qu'il en a coûté à Jésus dans cette obéissance pour notre bien. Voilà. Ça va ? Donc, premier motif pour lequel cet holocauste, ce sacrifice consenti par Jésus est inégalable, c'est la dignité de l'offrande, lui. Deuxième motif, c'est l'obéissance incroyable, enfin suprême et perpétuelle, jusque dans les instants les plus terribles de celui qui s'offre. Et puis, et c'est sans doute le motif le plus profond auquel vous songiez depuis tout à l'heure, j'en suis sûr, ce qui donne toute sa valeur, une valeur immense au sacrifice de Jésus, c'est l'amour avec lequel il l'offre, avec lequel il s'offre. Il le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ou pour ses amis. Ça, c'est en Jean 15, donc ça fait partie des confidences que Jésus fait à ses chers apôtres dans l'intimité de la scène. Après avoir offert la première messe de l'histoire, c'est ce discours d'adieu. Et voilà ça, au milieu du discours d'adieu, il n'a pas de plus grand amour. Il aura déjà lavé les pieds, mais il en rajoute encore. Il suffit pas de laver les pieds, il suffit pas d'être serviteur, c'est déjà très bien et nécessaire, mais il faut encore donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors donner sa vie, comprenons-nous bien, hein. On n'est pas tous appelés au sacrifice sanglant. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est une offrande de soi. Voilà. Donc, et Jésus a donné sa vie au sens le plus strict qui soit, et c'est ce qui prouve, selon la logique qu'il a lui-même exprimée, l'amour incandescent, l'amour supérieur dont il est animé à notre endroit. D'autant que, et ça c'est vraiment la fine pointe de l'excellence de Jésus quand même, d'autant plus que du haut de la croix, alors que rien ne l'y poussait, c'est le moins qu'on puisse dire, il demande en plus au Père de pardonner à ceux à ses bourreaux. Ah, ça c'est un truc quand même, enfin un truc, pardon, avec un T majuscule. Hein. non mais c'est quelque chose d'incroyable. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors ça c'est comme toutes ces paroles passées au creuset de la souffrance qui émanent de la bouche du Christ. Hein. Les sept paroles du Christ en croix, vous savez combien de méditations si belles ont été faites depuis 2000 ans. Sur ces trésors-là, on n'aura jamais sondé toute la profondeur de ce que Jésus voulait y mettre, en fait. On peut l'interpréter de bien des manières, et je laisse à chacun le soin de le faire, quoi, en se l'appliquant à soi-même, parce que les bourreaux, nous en sommes, en fait. Voilà. Donc, nous ne savons pas ce que nous faisons. Et pourtant, nous sommes instruits, non ? Enfin, et oui, voilà. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Alors, je vous cite des phrases très belles de Jacques Maritain, vous savez, ce philosophe et aussi auteur spirituel qui a vécu les trois quarts du XXe siècle, grand converti avec sa chère Alissa, son épouse, voilà, formé à l'école, ou plutôt à la caserne, anarchiste, mais caserne quand même, de Léon Blois, voilà, qui était, si je ne me trompe, son parrain du reste de baptême. Jacques Maritain, qui a des phrases vraiment très belles, des lignes très belles sur cette offrande amoureuse de Jésus. Et c'est dans un livre qui s'intitule « De la grâce et de l'humanité ». de la grâce et de l'humanité, pour ceux que ça intéresse. On ne croit pas que ça ait été réédité, sinon dans les œuvres complètes, voilà, aux éditions Saint-Paul, enfin bon. Mais ça se trouve d'occasion, et vraiment, vous ne perdrez pas du tout votre argent, c'est magnifique. Et voilà ce qu'il dit. Cet holocauste, vous voyez donc, Maritain me rejoint, enfin, plutôt je suis inspiré de Maritain pour utiliser le terme holocauste. Donc, cet holocauste, le Christ le veut par amour. Par amour pour son Père et par amour pour les hommes. Vous me direz, bon, d'accord, on attendait du grand, du splendide, là c'est quand même un peu basique. Oui, on y vient. Il n'y a pas de plus grand amour. À ce moment, la charité du Christ, qui est encore en chemin, qui est encore viator, viator c'est celui qui est sur la via, sur la route, donc qui est encore sur terre, franchit l'abîme qui sépare le fini de l'infini. Elle est portée au degré de perfection suprême et indépassable, où se trouve la charité du Christ comme comprehensor. Il faut un mot d'explication. Léviator, c'est nous, donc. Je l'ai dit, ce sont ceux qui pérégrinent sur Terre. Voilà. Non pas qu'ils se traînent, parce que nous sommes... Mais, voilà. Et le comprehensor, c'est celui qui est déjà dans la gloire, qui comprend, qui voit l'essence de Dieu, qui est dans la vision béatifique. Jésus a cette spécificité qu'au cours de son existence terrestre, et c'est le seul, de son espèce, j'allais dire, il n'était pas seulement viator, avec, vous savez, une intelligence qui a dû apprendre des choses, avec une humanité qui a dû apprendre à manier les outils de son père, etc. Il n'est non seulement viator, donc, mais il est également comprehensor. Et ce, depuis sa conception. C'est-à-dire que dans son humanité, c'est très difficile à se représenter cela, évidemment, mais c'est une perfection telle que il était dans la vision béatifique depuis le début, en fait. Et à un degré qu'aucun grand saint, pas même la Vierge Marie, ne saurait atteindre. Même dans la perfection de sa gloire actuelle. Voilà. Elle n'en prend pas ombrage. Hein. Petit message de sa part, tout va bien. Mais, vous voyez, il y a cette spécificité en Jésus. Mais, et c'est Maritain est un grand thomiste. Voilà. Il s'est inspiré beaucoup. Après sa conversion, il a dévoré saint Thomas d'Aquin. Il en a bien rendu compte. Enfin, c'est un disciple de saint Thomas. Et saint Thomas explique que, et là-dessus, il a été agréé par l'Église, sur la croix, pour expliquer, vous savez, cette parole surprenante du Christ à son Père, en l'appelant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, cette profonde dérédiction de Jésus s'explique, et commente saint Thomas, par le fait que la vision béatifique dont il jouissait depuis le début de depuis son incarnation, depuis sa conception, la conception de sa nature humaine, c'était comme mise, il avait accepté de la mettre comme de côté, vous voyez, pour affronter de plein fouet cette situation dramatique de l'être humain confronté à la dérédiction. Donc c'est par pur amour de nous qu'il n'a pas voulu puiser dans les consolations de la vision béatifique. C'est, vous me suivez ? Ouais. Et donc là, en fait, ce que nous dit Maritain, alors ça prête un peu à caution, parce que tout ça n'est pas estampillé, si je puis dire, j'aime pas le terme, mais c'est une thèse théologique, voilà, qui est sérieuse tout de même, et que le cardinal Journet a couvert de son autorité, grand ami de Maritain, et il ne l'a pas fait par copinage. Il l'a fait du haut de sa sagesse et estimant que c'était cohérent. C'est-à-dire qu'à l'ultime moment de cette crucifixion, Jésus a, comme vous voyez, cet amour qui motivait le don de soi, cet amour qui l'animait dans son holocauste, a rejailli cette vision béatifique. Jésus a comme retrouvé ses droits, si je puis dire, dans son humanité, et il a été comme, vous voyez, la charité du Christ comme comprehens, comme viator est comme ressaisie, elle est comme démultipliée par cette vision béatifique qui l'unit à Dieu. Ça va ou pas? Enfin, qui lui fait considérer Dieu, qu'il est lui-même, et Dieu qu'est son Père. Voilà. Et donc, il y a un second souffle. Le terme est bien fait. Mais vous voyez, voilà. Et c'est l'amour au plus haut degré concevable en une nature créée. Parce que là, je suis en train de vous parler de l'humanité de Jésus. Le Verbe éternel, lui, il n'a jamais... il n'a pas besoin du tout de vie en béatifique. Hein. Pour lui, tout va bien. Il a la science infinie de Dieu. Voilà. Bon, s'il voulait, je dirais, il se promène, quoi. Mais oui. Donc, au-delà, voilà, au sommet de l'union mystique, voilà, selon le mot de saint Jean de la Croix, l'homme et Dieu sont un seul esprit et amour. Mais cette fois, en un ravissement de l'âme en Dieu, donc l'âme humaine de Jésus, si total et si puissant que la nature humaine ne pouvait plus le supporter et qu'il arrache, que cet amour incandescent arrache, pour ainsi dire, l'âme de Jésus à son corps. Autrement dit, ce que Maritain est en train de nous expliquer, abreuvé de saint Jean de la Croix, qu'il vient d'évoquer, et éclairé par la théologie de saint Thomas d'Aquin, c'est que Jésus n'est pas premièrement mort de ses blessures, quoique il était quand même sacrément ecchymosé et transpercé de partout, mais que il est mort dans une sorte de spasme, le mot est tout à fait insuffisant, d'amour. Il ne pouvait plus, l'amour était tellement incandescent que une nature créée fût-elle celle de Jésus ne pouvait plus supporter. Bon, c'est assez audacieux, comme je vous cache pas, comme discours. Et peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Mais, bon, bah, c'est un langage mystique, alors voilà. Je conçois que ça puisse... que vous trouviez que c'est un peu impudique, peut-être, ou que c'est pas très parlant. Mais moi, j'avoue que ça... Bon, je trouve ça assez... Voilà. Autrement dit, continue Maritain, c'est par une extase d'amour que le Christ est mort sur la croix, au comble de la liberté, parce que l'amour est libre, au comble de la liberté du vouloir, il a remis son âme entre les mains du Père. Bonsoir. Oui. Juste avant. Oui. Oui. Le pourquoi m'as-tu abandonné, d'ailleurs, dans le récit de saint Jean, c'est pas la première parole c'est pas la dernière parole. La dernière parole, c'est tout est accompli. Quand sumat est, tout est accompli. Vous voyez, et justement, qui montre bien l'obédience, le fait que tout est accompli, sous-entendu, mission remplie, quoi. Ouais. Mais bon, comme j'avoue que ça prête à caution, voilà, je veux pas. Mais je voulais quand même vous présenter cette perspective qui est assez peu répandue, en fait. Je pense pas que vous ayez jamais. Hein, voilà. Alors, ah oui, déjà 50 minutes tout de même, avec mon introduction. Non. Donc on se rassure. Voilà. Alors, j'ai essayé de rendre compte, je me suis quand même beaucoup focalisé sur le sacrifice du Christ, ce qui tombe plutôt bien parce que c'est un peu lui qui fait tout quand même, enfin, ou presque. En vous montrant les motifs pour lesquels il est incomparable, et qui sont, je crois, des motifs partant de notre propre admiration et de notre propre... ça éclaire notre méditation, je crois, surtout à l'approche de cette semaine sainte. Et alors maintenant, quel est le rapport avec la messe? Voilà. Alors, c'est ça, on est quand même en train de traiter du sacrement de l'Eucharistie. Est-ce que la messe est ou pas un sacrifice?
Oui.
Alors, non, mais d'accord. Oui. Alors, je suis très heureux de vous entendre dire oui, parce que c'est la bonne réponse. En tout cas, c'est la réponse que donne l'Église catholique. Voilà. Et les communautés dites, enfin, c'est pas orthodoxe. Mais c'est pas vraiment les thèses réformé. Eh oui. Parce que ce qui pose problème à la réforme, et ça vous le savez sans doute, c'est précisément qu'ils estiment que considérer... Alors, juste une petite aparté, encore une. La dernière fois, j'ai fait allusion, au début de la séance, aux différentes postures des communautés de la réforme, des postures assez nombreuses, quant à, souvenez-vous, la présence réelle. Voilà. Donc, il y avait les anglicans à High Church, pour faire court, et puis en dessous, les luthériens, et puis ensuite, les calvinistes, et puis ensuite, vraiment, je l'ai fait à grands traits, hein, les communautés évangéliques. Voilà. Par ordre de dégradation, si je puis dire, ou dans l'estime de la présence réelle. Voilà. Je dois ajouter que, pour le coup, à part les anglicans, certains anglicans, là, encore une fois, une part d'ailleurs d'entre eux étaient tellement proches des convictions de la foi catholique qu'ils ont fini par rejoindre le bercail. C'était sous le pape Benoît XVI. Et il y en a encore qui s'apprêtent à faire cette démarche. À part eux, et ceux qui vont rester sans doute dans la High Church, mais voilà, ils ne croient pas au caractère sacrificiel du culte que eux-mêmes célèbrent. Pourquoi ? Le grand problème, c'est que ça ferait nombre avec le sacrifice unique et définitif de Jésus sur le calvaire il y a 2000 ans. Vous voyez ? Ça reviendrait à estimer qu'il manquait quelque chose à cette offrande suprême dont je viens de vous montrer la noblesse totale, quoi. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien préciser les choses. Et l'Église ne s'en est pas privée, notamment en réponse à cette critique des réformés, à l'occasion du Concile de Trente, bien sûr, qui fut une tentative de... C'est pas seulement... parfois, on voit dans le Concile de Trente une espèce de grand coup de grand coup de bâton. Pas seulement. Ça a été, le Concile de Trente a été précédé d'années, voire de décennies, de discussions avec ceux qui prenaient la tangente. Le cardinal de Viau, Cajetan, qui est le plus grand commentateur de saint Thomas, protagoniste du Concile de Trente, a rencontré Luther. Malheureusement, la rencontre s'est soldée par un échec mutuel, mais tout de même, on a discuté, Bellarmine, pour essayer de voir si on ne pouvait pas, moyennant des explications plus nettes, faire revenir dans le bercail ceux qui s'apprêtaient à en partir ou qui en étaient partis. Voilà. Et donc Trente a réinvesti la doctrine catholique, et particulièrement la doctrine des sacrements, puisque c'est ce qui posait problème en large part, et bien sûr, puisque le sacrement des sacrements, le Saint-Sacrement, c'est l'Eucharistie, bien Trente a traité en long, en large et en travers du sacrement de l'Eucharistie, de la présence réelle, qui posait problème, comme je l'ai dit la dernière fois, aux communautés réformées, et du caractère sacrificiel de la messe. Qu'on s'entende bien, c'est pas du tout le fait qu'il y a eu du sang, que ce soit quelque chose de... Vous voyez, c'est pas le caractère sanguinolent du sacrifice qui a rebuté les communautés réformées. Ils n'avaient pas ce genre de pudibonderie. Enfin, quand on lit ce qu'écrivent Luther et Calvin, pour prendre vraiment les deux grandes figures tutélaires de la Réforme, j'aime autant vous dire que, en fait de souffrance, en fait de sang et en fait de courroux du Père, on est servi. Donc c'est pas ça. Ils n'ont pas dit à l'Église catholique « Arrêtez, c'est trop violent, la présentation, vous faites des choses. » Non, non. Encore une fois, c'est qu'ils reprochaient à l'Église catholique accordant un caractère sacrificiel à la messe, de faire doublon ou de laisser croire qu'il manquait quelque chose au sacrifice unique et définitif de Jésus au Golgotha. Alors, c'est pour ça que je vous le dis en substance, on ne va pas entrer dans les considérations techniques. Je vous invite du reste à aller voir le catéchisme de l'Église catholique, qui est une bonne reprise, à cet égard comme à d'autres, de la doctrine, sur ce point. Vous avez des enseignements dans la partie qui concerne les sacrements, sur le sacrifice, au numéro 1356 et suivant, qui reprennent de manière très, très abondante et s'appuyant, enfin, faisant de nombreuses références à l'Écriture sainte, au Père de l'Église, à la théologie de saint Thomas notamment, et au Concile de Trente. Voilà. Et puis au Concile Vatican II, lorsqu'il s'agit d'un magistère plus récent. Et en gros, ce qui explique le catéchisme, comme l'expliquait Trente en son temps, c'est qu'il s'agit d'un sacrifice par dérivation. Évidemment, toute la vertu vivifiante, salvifique, contenue dans le sacrifice qui est célébré à l'occasion de la messe, est dérivée du sacrifice unique du calvaire. Pourquoi la messe ? Eh bien, par pure miséricorde de Dieu, afin que ceux qui n'étaient pas protagonistes à l'époque, qui n'étaient pas au pied de la croix, si vous voulez, ou qui n'avaient pas reçu des mains de Jésus au Cénacle son corps et son sang, puissent, au fil des générations, communier, au sens strict, à cet unique sacrifice, vous voyez, au fruit de ce sacrifice. Le cardinal Journet explique que lorsqu'il était ses entretiens sur l'Eucharistie, que je vous recommande, ils sont accessibles. C'est pas toujours le cas des écrits du... Je parle pas financièrement, parce que tous les bouquins de Journet sont assez vendus pour des sommes modiques. Mais, et puis, à la bibliothèque La Colline, je suis sûr, dans la crypte de Notre-Dame-des-Airs, où tous vous vous pressez chaque semaine pour aller acquérir les livres, mais dans mes petites pages de pub pour cette bibliothèque, où je vous assure qu'il y a un fonds qui vaut le détour. Voilà. Et en plus, certains ouvrages sont parfois donnés ou peuvent vous être vendus pour une somme modique, enfin bref, où ils peuvent vous faire des commandes et ils sont bien sûr que... Voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Et dites-leur que j'ai fait de la pub, parce que parfois ils trouvent le temps long, les pauvres. Voilà. Eh bien, donc, le jour vient au cardinal Journet, son discours sur ses entretiens sur l'Eucharistie, pour le coup, qui sont accessibles. Il raconte que quand il était catéchiste, pour sensibiliser, comme on dit, les enfants à ce qui se passe au cours de la messe, il leur disait, les enfants, fermez les yeux, voilà, vous êtes dans les mêmes dispositions que la Vierge Marie, il y a 2000 ans, au pied du calvaire. Vous fermez les yeux et écoutez ce que je vous raconte. Et donc il leur racontait des bribes de la passion, si vous voulez. Et voilà, donc vous entendez, et là, on chargea Jésus de sa croix, et il disait, crucifie-le, crucifie-le. Enfin, je ne prends pas dans l'ordre, mais vous remettrez dans l'ordre. Voilà, ces différents épisodes. Crucifie-le, c'est avant. Hein. Mais personne n'a moufté. Donc, bon, c'était juste un test. Voilà. Et puis, etc., pas très bien. Et puis, il leur dit, voilà, vous êtes au pied du calvaire, voilà. Et ils le crucifièrent entre le bon et le mauvais larron, etc. Là, là. Et puis... on lui tendit une branche d'hyssope parce qu'on l'avait entendu dire Eloi, Eloi, lama sabachthani et tout. Voilà. Et puis il dit voilà, là vous êtes comme la Vierge Marie. Bon, maintenant ouvrez les yeux, c'est toute la différence, il disait. Vous voyez, toute la différence, c'est qu'ils étaient dans une salle de catéchisme, je suppose, et qu'il n'y avait rien devant eux. Et il disait, vous savez comment on peut parfaire ? Alors il leur disait avec des mots d'enfance, je pense, mais. Moi, je parle à des grands-enfants, donc je me permets de prendre des raccourcis. Comment peut-on parfaire cette situation analogue dans laquelle on se trouve avec la Vierge Marie quand on a les yeux fermés ? Eh bien, quand en ouvrant les yeux, on se trouve à la messe. Et elle disait, vous voyez, pourquoi est-ce que le prêtre célèbre la messe ? Et pourquoi il est important que vous y veniez ? Pourquoi vous y êtes conviés par le Seigneur ? Eh bien, parce que ainsi... Vous pouvez non seulement dans votre esprit vous représenter les choses, mais aussi avec vos yeux, avec vos oreilles, avec vos sens. Et cueillir, quand vous aurez fait votre première communion, le fruit qui vient de la croix. C'est assez bien vu, je trouve. C'est tout simple. Mais je pense que quand c'était Journet qui racontait ça, c'était plus suave, mais voilà.
Et assister au renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ.
C'est ça, en fait. C'est l'enjeu. C'est ce qu'il disait à la messe. Donc venez à la messe parce que vous assisterez. On va y célébrer la passion, la mort et aussi la résurrection du Seigneur Jésus. Mais effectivement. Et voilà. C'est pas du tout. Vous voyez, quand on conçoit bien que c'est une dérivation, que ça n'est qu'un rallongement de ce qui s'est passé le jour du calvaire, les termes sont impropres, mais et que c'est une miséricorde afin que chacun puisse être comme présent au pied du calvaire en prenant part à la messe, les griefs tombent. Enfin, je veux dire, vous voyez où. Alors, certains théologiens ont outré le trait au point de prétendre que, à chaque messe, Jésus revivait sa passion. Bon, autant vous dire que l'Église a tout de suite dit, attendez, on se calme, c'est terminé. Jésus est dans la gloire, dans la gloire, c'est terminé. Il s'est offert une fois pour toutes, c'est pas. Vous voyez, il y avait parfois une façon un peu inconvenante, en fait, de se représenter les choses. C'est un sacrifice, c'est toujours c'est le sacrifice sanglant du calvaire, mais qui est, comme vous le disiez à très juste titre, représenté, non pas au sens d'une représentation théâtrale, hein, j'y avais déjà insisté pour la présence réelle, mais représenté, rendu présent, selon un rite non sanglant. Ça va ? Et avec les accidents des saintes espèces, qui sont les accidents du pain et du vin. Ce n'est pas la chair qui nous est donnée avec non seulement la substance du corps et du sang de Jésus, mais aussi avec les accidents, les déterminations de. Oui.
Représenter, présenter à nouveau.
Oui.
Et non pas réitérer.
Non. Très bien vu la nuance. C'est pas réitérer. Il n'y a pas une réitération au sens de reproduction de ce qui s'est fait avec toutes les implications et toute l'ampleur. Non. Ouais. Représentation. Mais tout cela vraiment est simplement réexpliqué, représenté dans le catéchisme. Vraiment, je vous invite à y faire un tour. Alors, je ne retrouve pas. Le fait que que la messe soit est une dimension sacrificielle est avéré depuis le début, en fait. Hein. Depuis cette première messe qui est antécédente, on le sait, hein, à le Jeudi Saint, donc, où Jésus parle de manière très nette. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais comment sont-ils offerts ? Ben, moyennant le sacrifice qu'il va offrir le lendemain. Vous voyez ? Déjà, par le fait qu'il ait institué la messe la veille, à un autre moment, en somme, que au moment de son sacrifice ultime sur la croix, autorise à penser, ou nous fait comprendre, que la messe a une dimension vraiment sacrificielle, sans qu'elle fasse nombre avec ce qui est offert le vendredi saint. Ça va ou c'est trop. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandu pour vous en rémission des péchés, dit-il chez saint Matthieu. Dans le récit de l'institution de saint Matthieu, hein, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandu pour vous en rémission des péchés. Il ne fait pas allusion seulement à ce qu'il va offrir le lendemain, mais au fait que soit répandu ce sang à travers les siècles, hein, par le canal qu'est la messe, en fait. Et toute la. Enfin, il serait un peu abusif de vous imposer toute la litanie des pères de l'Église qui ont commenté depuis la plus haute antiquité, qui ont affirmé le caractère sacrificiel. Je ne cite que Saint Cyrille de Jérusalem, qui parle du sacrifice de réconciliation, l'offrande eucharistique est le Christ immolé pour nos péchés, dit-il. Saint Ambroise, oui, il est certain qu'il offre un sacrifice en nous, car sa parole sanctifie l'oblation qui est offerte. Son disciple Saint Augustin qualifie l'Eucharistie de sacrifice quotidien de l'Église. Sacrifice, c'est bien un sacrifice, vous voyez. Et alors, face à cette... Face à ce sacrifice qui est réitéré à chaque fois qu'est célébrée la messe, quelle est la conduite qui convient ? Sans doute parce que soit qu'on nous l'a appris depuis l'enfance, soit que notre adhésion au christianisme soit plus récent, ou qu'on soit même catéchumène, on s'en doute un peu. Il faut rendre amour pour amour. Voilà. Oui, mais il faut aussi rendre, en fait, sacrifice pour sacrifice. C'est ça aussi qui est... Alors, comprenons-nous bien, parce que là encore, je pense qu'il y a une certaine vulgate qui a consisté à expliquer aux enfants que plus tu saignes, mieux c'est, Dieu le veut, c'est bien pour ta... Je pense qu'il faut manier les choses avec douceur, parce que sinon, il y a des raccourcis un peu excessifs et définitifs, surtout, ou durables, en tout cas, qui se font dans l'esprit des petits et qui peuvent être préjudiciables ensuite. Je préfère me fier, en fait, à ce qu'écrivent Saint Pierre et Saint Paul. Saint Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2, dit ceci. « Vous-même, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Quel est le sacerdoce saint auquel Saint-Pierre fait allusion? On le sait bien, ce n'est pas réservé aux sacerdoces, à ceux qui ont reçu l'ordination sacerdotale, mais c'est évidemment le sacerdoce commun des fidèles. C'est-à-dire tout baptisé vit de ce sacerdoce saint. Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, magnifique. Voilà la dignité qui est celle de tout baptiser. Il faut d'abord donc offrir, dit-il, des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc c'est d'abord un culte intérieur. C'est d'abord une disposition intime à laquelle l'apôtre Saint-Pierre invite. Le sacerdoce baptismal qui est en moi m'agrège, muni à Jésus prêtre, qui est en définitive, on l'appelle le souverain prêtre, en fait c'est lui, j'y ai insisté à plusieurs reprises, qui agit dans chaque sacrement. C'est pas le prêtre principalement, ni le diacre, ni l'évêque, ni le baptisé. Lorsque le prêtre dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », personne n'a la légèreté de penser qu'il a le pouvoir, lui, petit bonhomme, de faire descendre dans un peu de pain, un peu de vin, le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Ou alors, il faut que ce prêtre prenne des vacances. D'ailleurs, en parlant, non. des cons, je paye. On en parlera une autre fois. De même, lorsqu'il donne l'absolution, et ainsi de suite. Bon, mais, comment dire, donc, à tenir, je trouve ça très beau, en fait. L'essentiel... et ce culte intérieur. Ça ne veut pas dire que je découragerai par là, du haut de mon sacerdoce ordonné, aux laïcs que vous êtes, de prendre part en quoi que ce soit à la liturgie eucharistique. C'est pas l'enjeu. Mais je pense qu'il est important, en ces périodes de débat houleux, on ne va pas se cacher à son petit doigt, de se rappeler la noblesse de la condition baptismale et que... au dire même de Saint-Pierre, vous pourriez être des papes quand même, c'est d'abord un sacrifice intérieur, c'est d'abord une union intime avec ce qui se passe à l'occasion de la célébration de la messe qui importe. La première participation active des fidèles laïcs à laquelle le Concile Vatican II a fait allusion, à juste titre, est celle-ci. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est l'unique, mais ça veut dire que c'est le fondement. Et que je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue celui-ci. Sinon, on peut devenir amer, entrer dans une compétition, parfois un peu malséante. Enfin, voilà. Après, chacun a son idée sur ces sujets, mais je pense que ça peut... C'est peut-être une solution... Enfin, ça peut contribuer à une sortie par en haut, en fait, dans ces débats qui deviennent de plus en plus âpres et qui... Voilà. Quant à ce que dit saint Paul... Du reste, c'est ce qu'avait dit Jésus à la Samaritaine, qu'il parlait des adorateurs en esprit et en vérité, par distinction vis-à-vis des adorateurs du mont Garizim, donc les Samaritains, là, et puis même des adorateurs du temple de Jérusalem, en disant « L'heure vient où on adorera le Père en esprit et en vérité. » Notre culte extérieur, toutes les tâches que nous pouvons accomplir, singulièrement dans l'aula liturgique, dans le sanctuaire ou dans l'édifice religieux, sont secondaires, en fait. Par rapport à ce, je ne suis pas en train de dire du tout que la liturgie ne sert à rien, que je serais bien mal placé pour le dire. Mais c'est d'abord et avant tout, le sacrifice est intérieur. Et saint Paul, pour sa part, aux Romains, écrit ceci. Vous connaissez cette phrase qui est magnifique. « Je vous exhorte, frères, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre à Dieu. » On pourrait dire, Saint-Pierre, Saint-Paul, même combat. Bon, déjà, c'est plutôt bon signe. Ils n'ont pas passé leur temps que à s'étriper. Et sur l'essentiel, ils étaient raccord, comme on dit aujourd'hui. Bon, c'est assez heureux de le découvrir. Mais surtout, ce qui est significatif, c'est que dans les versets qui suivent ça, où il dit qu'il faut s'offrir en sacrifice vivant, saint, agréable, que c'est là le culte spirituel qui plaît à Dieu, l'apôtre évoque longuement, mais vraiment longuement, la charité qui doit prévaloir entre les baptisés. C'est Romains 12, chapitre 12, il y a un nom. C'est pas l'hymne à la charité qui est dans une autre épître, mais là, je trouve ça assez significatif. Le sacrifice agréable à Dieu, le culte spirituel, et il passe tout de suite à la charité. Il était déjà exposé, on le sait, à toutes les disputes au sein de la communauté pour savoir qui serait le plus grand. Rien n'a changé depuis les routes de Galilée ou même de Judée, où les apôtres se disputent pour savoir qui est le plus grand, qui va se mettre à la droite de Jésus, qui va tenir son bâton, etc. Qui va se pencher sur son cœur, toujours le même, le faillot. Voilà. Et donc il était important que les apôtres, et singulièrement saint Paul, sans cesse, en fait, à longueur d'épître, pour ne rien dire de saint Jean, qui a vécu le plus longtemps et qui, lui, dans ses lettres, en rajoute et en rajoute et en rajoute. Et à la fin, on le sait bien au témoignage de saint Polycarpe, je crois, son propre disciple, enfin l'un de ses préférés, je crois que c'est lui qui raconte qu'à la fin, saint Jean répétait, bon, c'est un peu bizarre, on a l'impression parfois peut-être qu'il radotait, quoi, en fait, mais voilà, mais il disait « Aimez-vous mes petits-enfants, aimez-vous mes petits-enfants, aimez-vous mes petits-enfants. » Et de fait, c'est ce qui apparaît dans les épîtres de saint Jean. C'est très frappant. Donc, ils sont sans cesse en train d'insister sur une chose, la charité. Vous voyez, donc, ça me paraît... Donc, la fonction sacerdotale, c'est offrir un culte, un sacrifice, s'unir au sacrifice de Dieu pour s'approcher convenablement, en fait, de ce mystère de l'Eucharistie, célébré au cours de la messe, mais même en dehors de la messe, par l'adoration, il faut adopter le même esprit sacrificiel, en fait. C'est-à-dire, en fait, de don de soi, d'offrande de soi en hostie agréable, comme dit l'apôtre, qui passe donc par l'exercice concret de la charité. C'est pourquoi l'Église, depuis l'aube de son histoire, a toujours uni, on le sait bien, la célébration de la messe et le service de charité. les agapes fraternelles, c'était ça aussi. Pas seulement sortir une bouteille, ce qui est quand même très sympathique, il faut bien le dire, mais ça allait quand même un peu plus loin, quoi. Et Saint Jean Chrysostome et son sacrement du frère, c'est ça, qui rajoute pas un huitième sacrement ou sept sacrements, mais qui explique qu'en fait, tous les sacrements seront reçus vainement s'ils ne débouchent sur quoi ? Ben sur le service concret du nécessiteux. Et Saint Chrysostome a été très audacieux, qui a été jusqu'à faire fondre. Dieu sait pourtant, vous savez qu'il a donné son nom à une liturgie très digne, toujours célébrée par nos frères d'Orient, et mais néanmoins, donc grand amoureux de la liturgie quand même. La liturgie de Saint Jean Chrysostome, c'est pas n'importe quoi. Et néanmoins, il a fait fondre des vases sacrés lorsque nécessité faisait loi, qu'il fallait subvenir aux biens des pauvres et qu'il n'en avait pas les ressources historiques. Donc, vous voyez, il y a un lien intime qui manifeste un lien intime, en fait, entre le sacrement de l'Eucharistie, la célébration de la messe, le sacrifice qui est vécu et le sacrifice que nous devons consentir, nous qui prenons part à cette table-là, à la célébration de la Sainte Messe. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il est quand même... Ça fait 1h16 et 19 secondes. 20, 21, que vous attendez. Donc, pas que vous m'écoutez avec attention. Peut-être serez-vous frustré que je ne sois pas entré dans les détails, dans davantage de détails. Mais je pense qu'il y a quand même là de quoi déjà nourrir un peu la...